Je vais faire une exhortation aussi, parce que là, vous me connaissez, il me faut 55 minutes normalement, donc je vais vous lire une histoire qui, faites-moi confiance, c'est vrai, et qui m'est tombée sous la main alors que je préparais la prédication d'aujourd'hui et qui correspond bien en fait à ce que j'aurais souhaité dire, en tout cas partiellement. Donc ça, c'est un peu long, mais j'espère que je vais la lire pour que vous endormiez pas. Donc ça se trouve dans un bouquin qui s'appelle Keren Israël, que certains connaissent peut-être, mais l'histoire en elle-même n'est... Bon, c'est une revue messianique, mais l'histoire en elle-même n'est pas, n'a rien de messianique. Enfin, elle est messianique, mais pas dans le sens où on entend le mouvement messianique aujourd'hui. Donc c'est une sous forme de un peu d'interview journalistique. Donc pouvez-vous vous présenter brièvement? Je m'appelle Emmanuel Polimeni. Je suis originaire d'Italie, mais j'habite Bordeaux depuis bientôt 50 ans. Je travaille dans l'immobilier. Comment se fait-il alors que vous conduisiez des engins de chantier? En fait, je travaille dans tous les corps de métier et ce jour-là, j'étais avec un engin, maniscopique. Je sais pas ce que... Ouais. Stéphane pourra nous expliquer ce que c'est, bref, pour monter des tuiles sur la toiture. J'avais pris un godet supplémentaire, un godet de chargement, parce que le pourtour de la maison dont on refaisait la toiture était envahi par des broussailles, des ronces et des arbres. C'était un peu la jungle. On avait loué cet appareil, un gros engin, et on avait prévu, juste avant de le rendre, de profiter le soir après la débauche, donc après le travail accompli, de dégager tout autour de la maison. C'était le 10 septembre 2008. Il était 16 heures. Il faisait une chaleur impressionnante. Des ronces montaient à plus de 5 mètres de haut. On ne pouvait pas voir à travers, et cela s'étendait sur des centaines de mètres. Ce chantier se trouvait chez les amis chrétiens. Jonathan était avec moi dans la cabine, et Johan et Paul Xavier sur l'arrière de la cabine, protégés par la cabine pour ne pas être piqués par les ronces. Alors on a commencé à faire une traversée. C'était impressionnant, car on rentrait comme dans un mur. On le traversait et on sortait de l'autre côté. Cela faisait un tunnel dans les ronces. On a fait plusieurs allers et retours comme cela, et à un moment donné, Jonathan, mon fils aîné qui était dans la cabine, me dit « Papa, c'est tellement impressionnant que je vais aller prendre mon téléphone portable pour filmer. » Et alors que j'étais en plein dans les ronces, j'ai senti des piqûres. Au départ, je pensais à des ronces, car j'avais la portière ouverte pour avoir de l'air et donc je sentais des piqûres sur le bras. J'ai regardé et je n'ai pas vu de ronces. J'ai continué à avancer, puis encore une autre piqûre, encore une autre, et là je me suis arrêté car cela faisait mal. Tout à coup, j'ai levé les yeux et juste à l'extérieur de la cabine pendait une énorme boule, un essaim. En une fraction de seconde, une grosse branche d'environ 5 cm de diamètre s'est libérée de l'arrière de la roue et où elle était bloquée, et avec violence, elle est venue frapper cette boule et a fait exploser l'essaim. Et là, j'ai vu un essaim de frelons d'Asie qui se sont engouffrés dans la cabine et ont commencé à me piquer. J'étais en short, avec un t-shirt et j'avais ma casquette sur la tête. Je l'ai secoué dans tous les sens et comme la portière était ouverte, j'ai essayé de me frayer un passage dans les ronces. J'ai réussi à sortir tant bien que mal. Mais, piqué de partout, je me suis mis à sauter, à rouler par terre. Cela faisait mal, et juste à ce moment-là, mon fils Jonathan, qui revenait avec son téléphone portable pour filmer, m'a vu arriver en courant. Il a vite compris la situation, voyant mon t-shirt criblé de frelons. Et il m'a dit « Arrête, ne va pas plus loin, enlève ton t-shirt, car tu vas mettre partout des frelons. » C'est ce que j'ai fait. Ils m'ont pris avec lui, et... on est parti en courant en direction de la maison pour se mettre à l'abri, à l'intérieur. Et là, j'ai senti mon énergie se vider. Je ressentais des brûlures sur tout mon corps en profondeur. Je sentais comme des boules de feu qui me rentraient dans la chair. C'était impressionnant et douloureux. À un moment donné, j'ai dit à Jonathan, pressentant la gravité, « Préviens les secours. Préviens Bernadette, qui était donc une amie. » Il courut appeler les secours et moi je me suis mis sur le carrelage de la maison à l'intérieur au frais sans bouger. Je commençais à sentir ma tête enflée. J'avais des étourdissements et ma seule hâte, c'était que Jonathan revienne et m'amène près du puits pour m'asperger d'eau, pour me rafraîchir tellement je sentais le feu partout. J'ai senti que j'allais perdre connaissance. Mon fils m'a emmené jusqu'au bord du puits et là je me suis affalé. J'ai perdu connaissance. Jonathan a commencé à m'asperger d'eau, mais j'étouffais. Je n'avais qu'une position qui me permette de respirer. C'était d'être à genoux, le front contre le sol. À plusieurs reprises, j'ai perdu connaissance et en attendant les secours, on m'a aspergé. Et on m'a dit même qu'après, j'étais comme un poids mort. Donc, on a décidé de m'ouvrir la bouche pour que je respire. À un moment donné, plus rien. Plusieurs fois, j'ai perdu connaissance. Enfin, ils ont réussi à faire venir le médecin que la famille de Bernadette avait appelé en catastrophe, en lui expliquant la situation. 10 minutes après, il est arrivé. Entre-temps, les pompiers avaient aussi été prévenus. Ils m'ont emmené dans le fourgon du SAMU. Je me tordais de douleur, c'était intenable. J'étais conscient dans le fourgon du SAMU. Je grelottais de douleur. J'ai des piqûres de frelons, ça me fait mal. Faites quelque chose, leur disais-je. À un moment donné, j'ai perdu connaissance. Une fois de plus, un médecin du SAMU qui était là parlait avec un autre. Qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait lui faire une injection à titre d'expérimentation, mais on ne sait pas ce que cela donnera. C'est impressionnant car j'ai perdu connaissance, mais j'avais l'impression de voir tout ce qui se passait. Je voyais entrer, sortir, j'entendais parler, j'entendais les enfants dehors, et au bout d'un moment, l'un des médecins est sorti du fourgon. Il est resté un moment à l'extérieur, puis est revenu, et l'autre médecin lui a dit « Alors, qu'est-ce que je fais ?» Il a reçu l'autorisation de me faire une injection parce que j'étais dans un état très critique. Impossible de prendre ma tension tant elle avait chuté. J'ai ensuite fait une réaction à la suite de cette injection, et c'est là que tout a commencé. Je me suis vu partir à une vitesse faramineuse comme un mur noir, contre un mur noir. J'étais allongé et je voyais que j'allais m'écraser contre ce mur. Je hurlais, très très fort, puisque les enfants qui étaient à l'extérieur m'ont entendu. Et tout d'un coup, j'ai transpercé ce mur et je me suis retrouvé de l'autre côté. Là, je me suis trouvé en présence d'une lumière éclatante, éblouissante. L'impression de peur et de vitesse s'était alors arrêtée. Je me suis stabilisé et me suis retrouvé dans un énorme cône lumineux, dans lequel je me sentais bien. J'ai commencé à me déplacer, mais très très lentement. Je me trouvais à la base du cône et me déplaçais en direction de la pointe. À un moment donné, j'ai ressenti une présence, un bien-être. C'était impressionnant. Pendant que je me déplaçais dans ce cône lumineux, je parlais très fort en langue et je récitais le psaume 23. À un moment donné, je me suis stabilisé à nouveau. La présence que je ressentais lorsque je suis entré dans ce tunnel, dans ce cône, cette présence communiquait avec moi. Je ne la voyais pas, mais elle communiquait avec moi. J'entendis cette voix qui me dit « Tu voulais savoir quelle était ta mission ?» Il faut savoir que 2 ou 3 mois auparavant, chaque fois que l'on se retrouvait ensemble au moment des repas, lorsqu'on rendait grâce, je terminais ainsi ma prière. « Seigneur, à très bientôt de te voir face à face. » Cela sortait de mes entrailles. Certains de mes proches, mon épouse, mes enfants me disaient « Manu, tu veux nous quitter ?» Je disais « Non, non, je ne sais pas, cela sort de moi-même. » Et cela a duré pendant 2-3 mois. Même à l'église, à la grande surprise de beaucoup, je ne faisais que citer cette parole de Dieu. « Un jour, nous te verrons face à face. » Donc, au moment où je me suis stabilisé et où cette présence s'est mise à communiquer avec moi, il m'a dit « Tu voulais savoir quelle était ta mission ?» Il est vrai que quelque temps avant, mon épouse n'arrêtait pas de me dire « Manu, tu as quelque chose à faire. Chacun sur cette terre a un rôle à jouer, et Dieu se sert de chacun. Donc il faut que tu demandes, toi, quelle est ta mission ?» Et moi, je répondais « Le Seigneur n'a pas forcément besoin de nous. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, il est grand et souverain. Tu voulais connaître quelle était ta mission. Voilà, tu sonnes de la trompette maintenant. Hâte-toi de dire à mon peuple que je reviens très bientôt, qu'il se sanctifie. » Qu'il se purifie, que tous ceux qui se sont éloignés reviennent. Je reviens très bientôt. Fini le temps de commercer. Et à un moment donné, il a parlé de l'offrande. La dîme, mon offrande, qu'en avez-vous fait ? Je me trouvais dans un bien-être que je ne peux expliquer. Que c'était bon. Je savourais ces moments avec beaucoup de plaisir, et puis cela s'est arrêté. Cette présence m'a dit, écoute maintenant, tu vas revenir auprès des tiens. Tu vas revenir dans ta famille et tu vas t'occuper des tiens. Je suis revenu à moi, tout malheureux. Je ne voulais pas revenir car j'étais tellement bien. Où étiez-vous lorsque cela s'est produit ? J'étais toujours là, au même endroit, car j'étais dans un état qui empêchait que l'on me déplace. Les médecins attendaient que ma tension remonte, puis le fourgon a pu reprendre la route rapidement en direction des urgences de Bordeaux. Je suis donc arrivé aux urgences où j'ai retrouvé mon épouse et mes enfants. Je leur ai raconté ce que je venais de vivre. Je ne ressentais plus de douleur, plus rien. C'était impressionnant. Je me suis rendu compte que l'épine calcanéenne que j'avais sous le talon du pied gauche et qui me faisait tordre de douleur, au point que je disais aux enfants quand on travaillait « Ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir un pied tout neuf !» parce que la douleur était insoutenable, ce n'est que 15 jours après que je me suis rendu compte que je n'avais plus mal. Je suis sorti de l'hôpital le vendredi après-midi. Il y avait du monde à la maison, mon frère aîné, le pasteur, qui était venu me visiter, et je n'avais qu'une hâte, leur dire ce que j'avais vécu et surtout ce message. Hâte-toi de dire à mon peuple que je reviens très très bientôt. Ce qui m'a fait vraiment penser que ce message était quelque chose qui venait du Seigneur, c'est ce qui suit. Il faut dire que pendant un bon mois et demi, j'étais dans un état second. Cela avait changé beaucoup de choses dans ma vie, bouleversé beaucoup de choses. Et le dimanche soir, durant le sommeil de la nuit, j'ai été réveillé par la même présence que j'ai connue, là-haut, et qui est venu comme si on branchait un appareil qui a filmé quelque chose qui va dérouler tout ce qui a été filmé et faire une rétrospective. Je me suis isolé dans une pièce de la maison. J'ai débranché le téléphone. Je me suis mis à l'écart de tout. Et pendant presque une semaine, 5 jours exactement, je me suis placé sous le regard de Dieu, dans l'intimité avec lui. Durant au moins 2 jours, je me disais même, cela ne finira jamais. J'ai passé 2 jours à demander pardon. Toute ma vie passait devant mes yeux, et le Saint-Esprit me montrait certains détails pour lesquels j'avais demandé pardon trop vite. J'étais passé trop vite, donc il m'a fait m'arrêter sur des détails. Et pardon, et pardon, et pardon Seigneur, et encore pardon, et encore cela, et encore cela. C'était impressionnant. Je discutais avec lui sur ce qu'était la purification, la sanctification. En fait, j'ai prié, et c'était des moments extraordinaires où je sentais Dieu communiquer avec moi. Quelque chose a donc changé dans votre vie? Totalement. Pendant des jours et des jours, chaque fois que j'avais l'occasion, je disais « ma vie ne sera plus jamais la même ». D'ailleurs, j'avais du mal à savoir comment j'allais pouvoir vivre après ces moments que je venais de vivre, et je n'arrêtais pas de dire à tous ceux qui m'entouraient que j'étais comme un poisson que l'on retire de son eau. Je n'étais plus chez moi. J'étais dans un état second et il ne me tardait qu'une chose, c'était de repartir dans la patrie pour laquelle on était fait. Je comprenais totalement cette parole qui dit que l'on est de passage sur cette terre, que ce n'est pas notre patrie. Et je me disais, bien sûr, je viens de voir quelle est ma patrie, et c'est là que je veux aller. C'est là vraiment que Dieu nous attend. C'est extraordinaire. Souvent avec mon épouse, nous avons méditer là-dessus, disant, attendez. Ah oui, ce n'est plus le temps de, le Seigneur donc lui avait dit, ce n'est plus le temps de commercer. Qu'est-ce que cela voulait dire à votre avis? Au départ, quand je travaillais dans l'immobilier, dans les affaires, je pensais que c'était à ce niveau-là, mais pas du tout. Parce que presque 2 mois après, j'ai eu la réponse. C'est fini le temps de commercer. Cela voulait dire que c'est fini le temps de marchander avec Dieu. C'est quand on dit « Seigneur, donne-moi ceci, et je ferai cela. Seigneur, si tu me bénis, je ferai cela. » C'est la signification de « fini le temps de commercer ». Au départ, j'avais du mal à voir clair. C'est dans tout cela, et c'était impressionnant, comme au fil du temps, Dieu a éclairé certains points comme celui-ci, et également celui des soucis de la vie qui nous voilent sa face. Quelque part, Dieu veut que l'on s'arrête pour pouvoir parler à notre cœur. Dieu veut que l'on veille à ce que les soucis de la vie ne nous voilent pas sa face, parce que souvent, il veut nous parler, et nous, on a la tête dans nos affaires, et on n'entend pas ce qu'il veut nous dire. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu ne se réjouissent pas de ce qu'il revient très bientôt. On doit hâter le retour du Seigneur. Et le peuple de Dieu doit se mobiliser pour se réjouir déjà de sa venue. Un chrétien plus jeune que moi me disait dernièrement, « Mais Manu, pour toi c'est facile de dire cela. Tu as vécu déjà toute ta vie. Moi j'ai besoin de vivre la mienne. Donc, plus tard, le Seigneur reviendra, le mieux, plus tard le Seigneur reviendra, le mieux ce sera. Je n'ai rien répondu, car j'avais de la tristesse dans mon cœur. Et quelque part, je voyais que même nos jeunes n'ont pas compris que lorsque le Seigneur viendra nous prendre, ce sera mieux que tout sur cette terre. Il y a beaucoup de choses que j'avais l'intention d'aborder ce matin. Hâter le retour du Seigneur, notamment, c'est pas la sanctification. Dans 1 Pierre, c'est ce qu'il dit, c'est que on se prépare et on hâte le retour du Seigneur en nous sanctifiant nous-mêmes. Mais la question qui est cruciale ici, c'est est-ce qu'on a vraiment cette certitude qu'avec lui, c'est mieux qu'ici? Est-ce qu'on a vraiment envie qu'il revienne finalement? Ou est-ce que nos préoccupations terrestres nous gardent ancrés sur cette bonne vieille terre? Est-ce que le fait que Dieu n'exauce pas nos prières vient du fait que nos prières ne sont pas sincères? Notre cœur est partagé. Il est divisé. Oui, on a cette espérance lointaine. Sans doute que ce sera bien avec lui. Mais je me suis arrangé mon petit nid ici. J'ai mon argent qui rentre tous les mois. Il y a des choses que j'ai pas envie de perdre. Est-ce qu'on a envie de garder des choses pour nous? Est-ce que la culture du monde nous a tellement imprégnés qu'on se dit « mais j'ai envie de garder certains de mes droits » parce que ça m'appartient, n'est-ce pas? J'ai mon salaire, j'ai mes connaissances, j'ai toutes ces choses que j'ai acquises par ma force, par mon travail. Est-ce que ce ne sont pas ces choses-là un peu bêtes qui nous retiennent? Je vais juste vous lire la phrase que je considère clé. Nous marchons, nous fonctionnons seulement lorsque nous savons que nous obtenons des récompenses immédiates. C'est une façon de fonctionner dans le monde. On fait parce que on va recevoir. Est-ce que dans l'Église nous fonctionnons de la même façon? Est-ce que c'est ça qui nous fait bouger? Nous marchons plus selon la sagesse du monde que selon la sagesse de Dieu. Et la conséquence de ça, ce sont des vies troublées, des vies qui retombent dans le péché sans cesse, et des vies incapables de supporter l'injustice. Et ça, c'est fondamental. Parce que l'injustice, si on n'arrive pas à la supporter, elle va nous précipiter dans la mort. Parce que si nous devons vivre et subir l'injustice au quotidien, alors à un moment donné, nous aurons envie que notre vie s'arrête. Parce que nous trouvons justement que ça n'est pas juste. Et alors nous voulons en arrêter là. Et dire, Seigneur, retire-moi de la terre, parce que ce que je vis n'est pas juste. Et alors on fait référence à l'apôtre Paul. Et on dit, oui, mais l'apôtre Paul aussi préférait... C'est pas vrai. L'apôtre Paul ne préférait pas partir, parce qu'il était... Il souffrait d'injustice. Lorsque l'apôtre Paul a dit que, éventuellement, s'il avait à choisir, il irait avec le Seigneur... Il le disait alors qu'il était en prison. Mais il l'a dit aussi en même temps qu'il disait à tout le monde « Réjouissez-vous » dans l'Épître aux Philippiens. L'apôtre Paul avait appris à vivre dans le contentement et à vivre dans l'injustice. Supporter l'injustice, ou plutôt considérer l'injustice des hommes à notre égard, ou l'injustice des circonstances de notre vie, comme étant la justice de Dieu pour nous. C'est cela particulièrement qui montre que le caractère de Christ a bien été formé en nous. Rappelez-vous Étienne. Étienne, il est dit que Étienne était plein. Il était plein du Saint-Esprit. Il était plein de grâce. Il était plein de puissance. Il était rempli. C'est dit nulle part ailleurs de quelqu'un d'autre, de cette façon-là. Son ministère a été court, extrêmement court. Il n'y avait pas plus grande injustice à vision humaine que de le voir être lapidé, gâché, sous les pierres, alors qu'il était rempli de Dieu. Mais cette injustice qu'il a subie, l'injustice humaine, à vision humaine, c'était la justice de Dieu pour lui et pour les hommes qui étaient autour de lui et qui ont pu voir quelle gloire éclatante il y a dans un homme qui a su que rien sur cette terre ne lui appartenait. Qui a su que cette terre n'était pas son lieu d'existence, mais que son lieu d'existence était là-haut, auprès du Seigneur. Et frères et sœurs, si nous nous levons le matin, en considérant que notre vie n'est pas sur cette terre, mais qu'elle est dans les cieux, désormais, à partir d'aujourd'hui, pas lorsque nous serons morts, lorsque nos attaches auront disparu complètement, et que nous aurons dit, Seigneur, l'injustice que le monde me fait, c'est ta justice pour moi. Alors je vous garantis que nous serons sauvés, et que rien, aucune puissance, aucune tentative du malin pour nous déstabiliser ne pourra réussir. J'espère que j'ai réussi à vous faire passer juste cette idée-là. L'injustice que nous vivons sur la terre, qui est le signe que l'Église est vraiment l'Église de Dieu. Parce que si nous vivons et que nous ne vivons pas l'injustice dans l'Église, si nous ne sommes pas persécutés, que ce soit par les hommes ou par des esprits démoniaques, si nous ne sommes pas persécutés pour ce que nous sommes, alors il y a un doute sur notre réalité spirituelle. Parce que la norme, c'est d'être persécuté, non pas d'être tranquille dans nos fauteuils à regarder la télé. Si c'est cela que nous devons vivre, si c'est cette injustice-là qui doit être notre quotidien, alors c'est la justice de Dieu pour moi. Et je loue le Seigneur pour cela. Est-ce qu'on est prêt à dire merci au Seigneur pour l'injustice du quotidien? Seigneur, je prie pour que cette journée soit mémorable pour chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur, pour que nos cœurs soient chavirés. Seigneur, que nous réalisions que notre vie n'est pas de ce monde. Que nous sommes sur la terre, Seigneur, pour accomplir les desseins que tu as préparés d'avance pour nous. Seigneur, mais que tout en nous soit attiré par toi et par la présence, être à côté de toi dans ta présence dès maintenant. Seigneur, nous voulons vivre en considérant les choses que tu nous donnes autour de nous dans le monde. Nous ne voulons pas être complètement à côté, avec la tête dans les nuages. Seigneur, mais en même temps, nous voulons considérer que ce qui nous attend est de loin meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Et nous voulons considérer, Seigneur, que ta main est sur nous, aujourd'hui même, et que nous ne vivons, Seigneur, l'injustice que à vision humaine, mais que cette injustice, c'est la justice de Dieu dans nos vies. Amen.